Et on a la chance d'avoir Anne-Marie Aubin comme chroniqueuse livre à notre antenne. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous nous parlez de deux livres toujours d'actualité là, qui ne sont pas parus cette année, là, ni l'année passée.
Non, des réimpressions. Le premier titre a 30 ans, mais il n'y a pas une ride. Là,
ah oui.
Il est toujours d'actualité. Ça s'intitule « Au lit, Princesse Émilie » chez Bayard Jeunesse, un album pour les tout-petits, 3 ans et plus, de 24 pages. Il était paru en 95 aux éditions du Raton Laveur et s'était mérité le prix Christie en 1995. Et 30 ans plus tard, on réédite ce livre-là en 2025. En fait, il est paru en 2024, mais ça fait aujourd'hui donc 30 ans.
C'est tout dire.
Et c'est écrit par Pierrette Dubé, qui est une écrivaine qui a beaucoup d'humour. Elle a beaucoup de textes amusants pour les jeunes, puis elle en fait aussi un peu pour les adolescents. Et puis bon, c'est illustré par Agathe Bré-Bourret, qui est une jeune illustratrice qui fait aussi du cinéma d'animation et qui a entre autres fait le magnifique livre « Je t'écris de mon lit » de Maude Neveu-Villeneuve, qui a gagné le prix du gouvernement général en 2023.
Donc, c'est une belle rencontre entre deux générations. Ouais.
Tout à fait. Et donc, elle a mis beaucoup d'humour dans ce livre qui parle du dodo, comme le titre l'indique, le drame de coucher cette petite fille qui s'appelle Émilie, qui est une princesse. Donc, on est dans le monde des châteaux, des princes et des rois. Et c'est une petite coquine qui sait tout faire, qui est très brillante, mais au moment d'aller au lit, c'est la crise à chaque soir. Alors, c'est un conte pour enfants qui est construit d'une manière répétitive et cumulative, c'est-à-dire qu'on voit très bien que elle veut pas aller se coucher, donc je sais pas, moi, le roi va courir après. Après ça, c'est le cuisinier qui va courir après elle. Après ça, puis là, ça s'accumule. Le roi, le cuisinier, bon.
Ah oui.
Alors, pour l'enfant, c'est une très belle technique de mémorisation. Et puis, en même temps, c'est une riche... c'est un texte qui amène toutes ces pièces qui sont dans un château. C'est une riche connaissance du milieu des châteaux, donc les oubliettes, la salle de bal, la salle d'armes, les cuisines. Et à chaque endroit, elle traverse la place comme un courant d'air. Et là, on énumère les choses qui sont là, les objets qui sont liés à chacune des pièces. Donc, c'est très amusant, c'est très instructif, c'est très rythmé. En plus, il y a des rimes. Elle s'amuse, l'autrice, à faire des rimettes avec les textes. Par exemple, la princesse Émilie est une charmante enfant qui fait la fierté de ses parents. Elle est fort distinguée, toujours bien habillée, jamais décoiffée, sauf les jours de grand vent, évidemment. Alors, ça donne du rythme, ça donne aussi le ton des contes de fées. C'est pas raconté d'une manière, c'est pas le langage des enfants de 3 ans, c'est ce que je veux dire. Alors donc, texte très amusant, qui a une très belle fin, elle a bien tourné ça, parce que tu sais, on a beau répéter qu'elle va d'une pièce à l'autre, à un moment donné, il faut finir. Hein? Alors ça, c'est une technique de comptage. Les compteurs peuvent énumérer tant de pièces qu'ils veulent, ils peuvent raccourcir le compte, l'étirer. Et c'est réussi, et ça va plaire à tous les enfants, même si ça fait 30 ans que c'est écrit.
Est-ce que finalement, elle va aller au lit, cette petite Émilie?
Oui, elle va aller au lit, parce que là, ensuite, elle va aller au pays des rêves.
Ah.
Et là, elle voyage encore et court, mais dans le pays des rêves. Alors, c'est très, très bien amené. C'est excellent.
Merci. Puis pour l'autre, cette fois-ci, c'est une autrice que vous aimez beaucoup, Charlotte Gingras.
Oui, puis là, on change complètement de registre. On s'en va dans quelque chose de réaliste, de pas joyeux du tout. Ça s'intitule « Guerre au pluriel, à la courte échelle ». C'est un livre de 149 pages pour 13 ans et plus, qui est toujours d'actualité, évidemment, quand on connaît ce qui se passe dans le monde. Et ce livre-là a paru d'abord en 2011, donc il y a 14 ans. Et puis, il s'était mérité, en tout cas, je crois que c'est le prix Alvin Bellil. C'est en 2012, l'année suivante, le prix Alvin Bellil. Et c'est une autrice, Charlotte Gingras, qui n'a pas, comment je dirais ça, qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont.
Mm-hmm.
Et ça, c'est rare dans la littérature jeunesse parce qu'on a tendance à arranger les choses.
À lisser les faits, les voilà. Histoires.
Alors, ce livre-là, en plus, il est documenté. Elle raconte à la fin de remercier les gens qu'elle a contactés, qui ont connu soit des soldats dans leur famille, qui ont été de loin ou de près avec le phénomène des guerres. Et donc, quand elle l'a écrit, c'était la guerre en Afghanistan. Là, aujourd'hui, des guerres, il y en a, que ce soit l'Afghanistan, la Bosnie ou autre, c'est toujours un problème. C'est toujours un choc post-traumatique pour les gens qui vont à la guerre, comme pour la famille qui attend dans l'inquiétude et la peur et le danger que tout cela entraîne. Mais avec l'espoir aussi que le soldat va revenir sain et sauf. Il y a toujours ça.
On pense évidemment à l'Ukraine et à Gaza là, qui font manchettes.
Moi, je trouve que toutes les écoles secondaires devraient lire ce livre-là présentement. Ça les ouvrirait à ce monde qu'on connaît mal. Et les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas le téléjournal. Donc, ils en savent ce que d'autres racontent. Et dans celui-là, ben, c'est dit crûment, mais c'est la réalité. Alors, c'est l'histoire d'un père de famille qui s'appelle Nathan. Il a 3 enfants. Il est militaire de carrière, mais aussi il est professeur d'éducation physique dans une polyvalente. Et là, il va en Afghanistan. Donc, la famille essaie de survivre à ça. Et c'est difficile. Alors, il avait promis qu'après la guerre de Bosnie, qu'il avait fait, qu'il irait plus, mais finalement, il est allé encore. Il y a une raison pour laquelle il y est allé. On l'apprend à la fin. Mais ça rend la mère complètement triste et dépressive parce qu'elle a l'impression qu'il
l'abandonne.
Voilà. Et comment c'est écrit, c'est qu'il y a 3 niveaux de narration. Il y a un petit garçon qui a 9 ans qui raconte au jeu, avec un ton qui peut parfois paraître plus vieux que son âge. Parce qu'on ne peut pas faire parler un enfant de 9 ans tel quel oralement dans un texte. Là,
avec tant de quoi? De sagesse ou de maturité? Ou...
Oui, puis de vocabulaire et tout ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Luca, j'en ai une citation ici. Quand papa a disparu, ça c'est au moment où ils sont allés leur conduire à l'armée, et puis là, ils prennent un autobus, puis ils s'en vont prendre l'avion, fait qu'ils ne les voient pas jusqu'au dernier moment. Là. Ils les quittent dès qu'ils prennent l'autobus. Il dit, quand papa a disparu, j'essayais très fort de partir avec lui dans ma tête, de disparaître avec lui, mais je n'ai pas réussi. Je suis restée de ce côté-ci du monde, les bras mous, le cœur serré, comme si j'allais avoir mal à respirer pendant les 6 prochains mois. Donc, on voit que le langage est très littéraire.
Oui, oui. Il peut le vivre, mais l'exprimer aussi bien que ça, là, c'est quand même admirable et irréaliste.
C'est comme une adulte dans la peau du petit de 9 ans et qui interprète. Alors ça, il faut accepter ça d'entrée de jeu. Et puis, ce même jour-là que tout le monde revient à la maison, lui, il a une sœur un peu plus vieille. Elle s'appelle Laurence. Et Laurence, elle a 15 ans, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et elle parle au-dessus parce qu'elle parle à son père. Alors, elle va dire, c'est plus tard, en soirée, pendant que tous les autres dormaient, que j'ai senti un petit nœud se lever au cœur de ma poitrine. Un minuscule serpent me faisait un nid et il avait l'intention d'y rester pour un bon moment. Et ça fait référence à la page couverture où on voit des serpents entortillés, là, ou un serpent. Alors, toute l'angoisse qu'elle vit, toutes ses émotions vont passer à travers cette métaphore du serpent tout au long du récit. Dans les moments difficiles, elle sent que le serpent vient faire un nœud dans son estomac, puis c'est difficile.
Alors, un nœud qui est bien installé.
Oui, puis ils vont vivre quelque chose qui est très difficile à partager avec les autres à l'école. Elle sent que les amis qu'elle avait avant sont loin d'elle, ils ne comprennent pas. Alors elle va dire, je me sens loin d'elle depuis la rentrée, comme si j'habitais depuis ton départ une planète éloignée dont je suis l'unique survivante, la planète solitude. Plus tard, elle va dire « Aucune d'elles ne craint de regarder les informations de 18 heures. » Effectivement, chaque fois, ils se disent « On va peut-être voir notre père, il est peut-être mort. » ou bon. Alors, ils vont faire des courriels comme ça, surtout de la part de la famille. Lui, il n'y a pas beaucoup de temps pour en envoyer.
Et elle va vous dire, dites, Anne-Marie, désolée de vous interrompre, il y a 3 niveaux de narration. Lucas, Laurence, est-ce que c'est la mère ou le père?
Non, l'autre, c'est un narrateur extérieur, j'ai oublié de le dire, il va raconter un peu ce que vit Nathan. Mais c'est par-ci, par-là, il y a très, très peu de passages comme ça. Question de nous situer par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Mm-hmm. Ça, c'est à peu près à chaque chapitre, là, c'est comme ça. Et puis là, ben, ça nous informe finalement de ce qui se passe de l'autre côté. Et à la toute fin, on comprend un certain nombre de choses que je ne révélerai pas. Mais je peux dire que c'est une lecture bouleversante. Parce que Charlotte Gingras écrit des histoires qui sont fortes, sombres, dures, mais c'est toujours authentique. Et les émotions sont là, qui prennent beaucoup de place, qui sont très bien décrites par des métaphores. C'est un style littéraire ciselé, il n'y a rien de trop là-dedans, il n'y a rien de répétitif. C'est documenté, Il y a des témoignages qu'elle a reçus. Elle a fait des recherches sur le sujet, on le sent.
Une vraie écrivaine, quoi.
Oui. Et puis, c'est une femme. Alors, elle a aussi un petit souci d'informer les jeunes filles qui vont lire ça. À un moment donné, ils écoutent le téléjournal, Laurence et puis Luca, parce qu'ils ont une autre petite sœur aussi, mais elle a 10 mois au début de l'histoire, fait qu'elle n'est pas très présente. Alors, il y a des insurgés extrémistes qui ont lancé une bombe sur une école de filles pendant la nuit. Et puis là, le chef déclare que s'il y a des hommes qui voient les fillettes, il les tue. Puis là, le petit garçon, il demande à sa sœur pourquoi ils font ça. Et elle lui répond, il pense que si elles apprennent à lire et à écrire, elles vont se mettre à penser toutes seules. Quand elles grandiront, elles refuseront peut-être de porter la burqa ou de se marier à 12 ans avec un inconnu. Alors, c'est très touchant quand on lit ça. C'est une réalité. C'est une chose qu'on ne dit pas assez et qu'il est important, je pense, que les jeunes qui sont ici, qui vivent dans un pays en paix, sachent, parce que peut-être qu'il y aura des réfugiés qui vont venir ici. On va peut-être vivre à côté d'eux. Et des fois, on a du mal à communiquer. Ben, il faut savoir par quoi ils sont passés. Alors, je dirais que parallèlement à ça aussi, il y a un garçon de 17 ans qu'elle va rencontrer qui, lui, veut aller dans l'armée, veut aller à la guerre. Et elle essaie de comprendre ce qui fait que des hommes ont envie d'aller là. Qu'est-ce qui les motive à aller se battre et à risquer leur vie, puis pendant ce temps-là, à faire souffrir une famille. C'est un peu ça son propos. Bref, un très beau livre, très bien écrit. C'est triste. On ne rit pas là-dedans, mais c'est une réalité, puis il ne faut pas l'ignorer. Puis c'est pas parce que c'est des jeunes adolescents qu'il faut les épargner non plus. Alors, voilà.
Guerre au pluriel, c'est publié à la courte échelle et c'est écrit par Charlotte Gingras. Merci beaucoup, Anne-Marie Aubin. Passez une belle semaine.
Au revoir.